de ta lumière, de ton âme. Nous comptons sur ton esprit afin qu'il nous oriente, qu'il nous dirige. Nous te demandons que tu nous donnes une oreille vraiment attentive et un cœur désireux de te plaire. Et que le résultat de toutes ces rencontres soit une affection renouvelée, une affection plus profonde pour ta personne, afin que nous ne te soyons pas adultères, mais que nous t'appartenions en propre, sans partage, pour toujours. Henri, Anne. Je pense que vous n'avez pas eu trop de peine à répondre aux questions que nous vous avions posées pour cette étude. Nous considérerons cela à la fin de notre rencontre. Ce matin donc, 16 juillet 1985, nous avons à considérer le chapitre 6. Vous l'avez certainement lu dans vos affiliés, de sorte que je n'ai pas besoin de le relire. Je vous ai dit ce matin qu'après la réunion d'hier soir sur le chapitre 5 des Proverbes, j'avais fait un rêve dont je vous parlerai, Dieu voulant, ce soir. Je pense que vous vous rendez compte que ce n'est pas une tâche facile de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui et de la prêcher avec force et intégrité. Hier soir, en terminant le chapitre 5, l'Esprit de Dieu nous soulignait cette grande vérité. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses pensées. Et cela nous fait penser au psaume 139 où il est déclaré que le Seigneur nous sonde et qu'il nous connaît, et qu'il sait quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Et il pénètre même de loin notre pensée, alors que notre parole ne l'a pas encore exprimée. Il sait quand je marche, il sait quand je me couche, il pénètre toutes mes voies. Et il ajoute que la parole n'est pas encore sur notre langue, que déjà il la connaît tout entière. Et nous devons nous pénétrer de cela. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Et nous devons aussi nous souvenir qu'un jour, nous paraîtrons devant lui et que dans une lumière fulgurante, toute notre vie sera alors manifestée devant tout. Ce que nous avons pu cacher sera manifesté. Il y en a qui pensent que du moment que tout a été couvert par le sang de Jésus, c'est vrai, nous ne serons pas condamnés quant à nos âmes, mais Dieu veut que nous nous connaissions un jour comme lui nous a connus. Et c'est pourquoi, dans une clarté éblouissante, tout sera manifesté. Alors, quand on sait cela, eh bien, il y a des choses qui changent. On dit pas, comme disait Luther, je peux pécher vigoureusement, puis après je m'humilie. Pêchez vigoureusement, ayez le courage d'y aller, pêchez, et après, vous connaissez la combine, on confesse, on s'humilie. Et un jour, tout sera magnifique. Et cela, chers amis, est un puissant moyen de nous faire marcher dans la voie de la sanctification. N'allez pas dire que c'est moi qui exagère. Verset 12 de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4. La parole de Dieu est vivante et efficace. Tu tranchantes qu'une épée quelconque à deux tranchants. On a parlé déjà de cette épée. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments, elle est pensée du cœur. J'ai été très arrêté par cette question que nos pensées, du reste, on reviendra dans ce sujet des proverbes, nos pensées seront manifestées, seront vues, moi, quand j'avais 13 ans, et que mon cœur s'est ouvert au Seigneur, ma conviction de péché m'a été donnée quand j'ai eu la révélation de ce que je pouvais penser. Je n'ai pas eu des actions mauvaises, parce que j'avais été éduqué par des parents chrétiens, alors évidemment, on est gardé d'une foule de choses quand on a eu ce privilège d'être élevé par des parents pieux qui nous ont donné la crainte de Dieu. Mais au fond, je n'étais pas sauvé pour autant, hein, parce que j'avais des parents pieux, parce que je ne faisais pas de mal, parce que j'avais la discipline familiale à la maison, que nous sommes bien obligés d'accepter, nous étions punis si nous faisions quelque chose de mal, ou si nous disions, si m'échappait une parole, parce qu'on rentre de l'école, on a entendu nos camarades et qui disent n'importe quoi. Je me souviens d'une gifle que j'ai reçue par ma mère, parce que elle m'avait posé une question, et quand je suis rentré de l'école, j'ai répondu à ma mère, ma foi non. Voilà, ma foi non, pour dire non, c'est pas, hein, ma foi non. Mais j'ai reçu une gifle, parce qu'on n'emploie pas ce mot ma foi comme ça. La foi, c'est la foi. Mais je m'en suis souvenu, c'est pas redit. Ma foi non. Je m'en souviens encore. Et il y a d'autres choses, on ne nous laissait rien passer. Et j'en bénis le Seigneur. Alors, verset 13 du chapitre 4, hein, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Ne pensez pas que tu sais faire quelque chose de caché. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. » Ça avait donné des yeux, ça avait donné un nez, ça avait donné des mains, ça avait donné des pieds, ça avait donné un corps. Satisfait de tout cela. C'était un capital que tu pouvais employer, que tu pouvais servir, toi qui n'as pas la lèpre. Quand même, il m'a fait providentiel qu'on ait vu le film hier soir. Parce que on avait parlé de tous ces mangues, mais nous, qu'est-ce que nous en faisons? De nos mangues. Vous avez vu tout à coup des gens qui n'ont pas nécessairement péché, et c'est bien ce que nous avons souligné hier, la lèpre, on l'emploie comme symbole du péché, mais c'est pas parce qu'un homme aurait péché qu'il est devenu lépreux. C'est une conséquence du péché en général, la lèpre. Hein. Comprenez bien, comme l'aveugle né, c'était ni lui, ni ses parents, mais qui avaient péché. Mais c'était pour que Dieu ait l'occasion de se glorifier par lui. Alors, je souligne cela en pensant à ces derniers versets, comme j'ai la coutume de le faire, de repartir du dernier chapitre que nous avons vu, n'est-ce pas, pour qu'il y ait réellement un lien. Les voies, verset 21, de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. C'est un verset 8 dans les Proverbes. Il y a d'autres versets dans l'Écriture qui disent la même chose. Et il pèse tous ses chemins. Les méchants, le méchant, ses iniquités le saisiront. J'aurais remarqué que presque chaque chapitre finit pour montrer que, au fond, le méchant, c'est pas Dieu qui le châtie, ce sont ses propres péchés qui le coulent, qui le trouvent, son péché se trouvera. Le méchant, ses iniquités le saisiront, et il sera tenu par la corde de son péché. Il mourra faute de discipline, et il s'égarera dans la grandeur de sa folie. Alors, si nous avions hier appliqué la dernière des règles, la septième dont je vous avais parlé, on aurait pu illustrer ce dernier verset, et ça, je vous laisse le faire, par différents exemples de ces hommes et qui ont été saisis par leurs propres péchés. Je pensais, par exemple, à Agag, un roi dont il est parlé dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, un roi amalécite que Saül, justement, avait voulu épargner. Et Saül et Samuel, quand il est arrivé, Agag était tout joyeux, on l'avait épargné, alors il disait, l'amertume de la mort est passée, et puis il continuerait, hein. Et quand Samuel le voit, eh bien, il le taille en pièces. L'amertume de la mort est passée, hein. J'ai passé un mauvais moment, mais on m'a laissé en vie. Un autre, je pensais à Adonis Bézek. Adonis Bézek, il avait coupé les pouces et les orteils à 70 rois. Et il les avait mis sur son plancher et il devait manger les miettes qui tombaient de sa table avec les pouces coupés et les orteils coupés. Et voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, ceux qui lui ont fait ça ne le savaient pas. On lui a coupé les pouces et on lui a coupé les orteils. Et tout à coup, alors, il se réveille et il dit, bien oui, tout ce que j'ai fait, ça, mais c'est au coup de la loi du talion, là. Je pensais aussi que vous pourriez trouver, c'est Amon dans l'histoire d'Esther, cette merveilleuse histoire, Amon qui a déjà fait dresser le gibet pour y pendre qui? Mardoché, et qui se trouve pendu lui-même, enfin, le méchant, justement, il prépare lui-même son gibet, si j'ose dire ainsi. Bien, évidemment, Amon a été pendu à son propre gibet qu'il avait dressé pour un autre. Et puis, vous pourriez prendre encore l'exemple terrible, alors, d'un disciple de Jésus qui s'appelait Judas. Hein. Judas, son péché, l'a trouvé. Et qu'est-ce que c'était son péché qu'il avait? Donc, il ne s'est jamais jugé. L'avarice. Hein. Et son péché l'a trouvé. Au lieu de le confesser. Et Jésus lui avait donné la possibilité. C'était certainement Judas le plus instruit de tous les disciples. Hein. Et le Seigneur lui avait confié la bourse. Et le Seigneur avait une intimité très grande avec Judas, parce que Judas devait toujours lui rendre des comptes. Alors, il a travaillé avec le plus juste des mains, et il ne s'est pas corrigé de ses défauts, il est resté voleur. Parce qu'il ne s'est jamais jugé de ses tendances. Or, nous aussi, nous avons des tendances. Mais quand nous voyons que nous avons une certaine tendance, qu'est-ce que nous devons faire? La caresser? Couper. La juger, hein, parce que si nous ne nous en jugeons pas dès l'origine, eh bien, ça va croître, et il n'y a pas de miracle. Et un jour, notre péché nous ruine. Bien, voilà une des règles que nous pouvions observer. Mais je vous laisse faire ce travail de chercher des exemples qui éclairent un passage, qui vous donnent une nourriture sur ce passage. Alors, après les enseignements sur la droiture, considéré dans le chapitre 4, nous avons vu hier soir donc un solennel avertissement au sujet de quoi? De la pureté. Droiture, quand on est un enfant de la sagesse, on marche dans la droiture et la vérité. Mais quand on est aussi un enfant de la sagesse, quand on a été engendré de nouveau, quelles que soient nos tendances, on marche dans la pureté. C'est-à-dire dans une affection totale pour le Seigneur, son mélange pour sa parole. Nous devons avoir toujours en vue cette pureté dans toutes nos voies, si nous vivons d'une manière consciente sous le regard de Dieu, parce que c'est cela qui nous gardera aussi. Je suis sous le regard de Dieu. C'est pas terrible, vous savez, au contraire, c'est tellement rassurant. Parce que si je suis sous le regard de Dieu, il peut m'arriver ce que Dieu voudra si j'en suis conscient. Alors, les avertissements relatifs à l'impureté cessent avec le chapitre 5, mais vous avez remarqué, ils reprennent avec le chapitre 6 à partir du verset 20e. Vous voyez, on abandonne cette question de l'impureté, et puis il nous signale d'autres choses, mais à la fin du chapitre, il revient sur ce qu'il a dit déjà au chapitre 5. C'est vraiment la méthode divine d'un enseignement, revenir sur ce qui a déjà été dit, parce que comme ça, ça entre. C'est enfoncer le clou, sans taper sur les doigts, hein. enfoncer un clou pour qu'on en soit bien convaincu. Ça, c'est la méthode de Dieu. Alors, entre ces avertissements se trouvent quatre courts fragments qui renferment des doctrines sur certains points spéciaux. Lequel d'abord? Le cautionnement. Ensuite, la paresse. Et ensuite, troisième, la perversité ou la fourberie. C'est la même chose. Avec cette abomination, cette chose dont l'Éternel a en horreur. Et puis après cela, l'auteur revient depuis le verset 20 au verset 35 au sujet qu'il avait laissé au chapitre 1, l'adultère et ses anges. Il revient sur cette question. Alors, reprenons maintenant notre texte. Et c'est ici que il est bien utile de comprendre le sens des mots. Qu'est-ce que c'est cautionner? Qu'est-ce que c'est que le cautionnement? Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, vous savez qui est votre prochain, j'espère, vous n'êtes pas comme le Parisien qui demandait à Jésus quel est le grand commandement de la loi. Le Seigneur le lui dit, et il cite le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors que c'est le Pharisien, mais qui est mon prochain? Et pour lui expliquer qui est son prochain, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il apporte quelle parabole? Le bon samaritain, celui que le juste n'aime pas, et qui se manifestera être vraiment le prochain de celui qui est tombé entre les mains. C'est justement celui qui n'aime pas qui est son prochain. Parce que le prochain, c'est pas celui qui est tombé entre les mains des voleurs. Le prochain, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Or, qui avait usé de miséricorde envers le blessé, ce n'était ni le sacrificateur, ni le lévite, mais le samaritain méprisé. Alors, celui que nous n'aimons pas. Et que nous devons apprendre à aimer si nous prétendons aimer notre Dieu. Alors, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, avant que n'arrive la catastrophe, si c'est encore possible, qu'est-ce que tu dois faire? Dégage-toi. Oh, je me dégage. Je ne suis pas comme ici. Je reviens en arrière, je ne suis pas un homme de parole, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Vous n'aurez pas besoin de vous dégager. Mais si, par bonté, parce que vous avez une réputation d'être un homme serviable, vous vous êtes laissé prendre en disant, ben, au fond, pourquoi est-ce que je lui aiderai pas, au fond, je ne lui prête pas de l'argent, et ça ne m'engage pas à grand chose, c'est un homme honnête, c'est un travailleur, et de sorte que, je n'aurai pas d'ennui, Et on n'a pas réfléchi que, un homme honnête, ben, il peut y arriver toutes sortes de choses qu'il n'a pas prévues. Et qu'est-ce qui peut lui arriver aussi? Mourir. Et les créanciers, ils n'entreront pas dans ces circonstances-là. Vous avez signé, payé. Vous avez honoré ce billet, eh bien, c'est à vous de payer. Puis voilà que je n'en avais pas parlé à ma femme de cela. Ben voilà, ça peut être une cause de divorce. Et je connais des gens qui ont cautionné sans parler de cela à leur femme et qui se sont trouvés après dans une situation épouvantable et la femme a divorcé. Je vous raconte pas des histoires. Vous vous imaginez pas qu'en 50 ans de ministère, on n'a pas des exemples à vous donner. Je pourrais vous en donner toute une liste. Alors on dira, oui, mais vous êtes trop littéral, là. Il faut se rendre service. Prêter, oui. Parce que quand vous prêtez, c'est quelque chose que vous avez, hein. Vous prêtez, peut-être que vous ne le retrouverez pas. Mais au moment où je prête, si je peux prêter, prêter sans intérêt, comme il le dit l'Écriture, eh bien, là, vous vous engagez. Mais vous le ferez si vous êtes marié, vous le ferez avec votre femme ou avec votre mari. Vous serez d'accord, peut-être pour un prêt, parce que le Seigneur l'a dit, ne te détourne pas de celui que j'ai emprunté de toi. C'est ça. Mais il a jamais dit que tu peux cautionner. Cautionner, ben, c'est prendre des risques. Et spirituellement, nous allons voir pourquoi cela n'est pas bien. Que veut dire donc cautionner? C'est se porter garant pour une autre personne. Une caution, c'est un contrat par lequel on s'engage à payer une somme donnée pour garantir l'exécution de l'obligation d'un tiers. Alors, le cautionnement, c'est ce contrat par lequel je me suis engagé envers le créancier à payer la dette de l'emprunteur. Si jamais l'emprunteur faisait défaut, je dis que moi, je paye. Alors, la banque donnera l'argent parce que si celui qui est emprunté ne peut pas payer, il y a le cautionnement. N'est-ce pas? Alors, vous aurez plus facilement l'argent. Alors, les Israélites avaient été enseignés qu'ils devaient prêter à leurs prochains et prêter même sans intérêt quand c'était à des Israélites. Si c'était à des étrangers, ils pouvaient aussi prêter et ils pouvaient demander un intérêt. Mais pour leurs frères, dans la chair ou dans la foi, eh bien, ils ne devaient pas demander d'intérêt. Mais voilà. Ils aimaient à assurer leur capital par le cautionnement. Ils devaient prêter. Mais l'Israélite se disait, oui, je prête à mon frère, mais s'il y arrivait quelque chose, eh bien, j'aurais une garantie. La garantie au sujet du capital. Ils prêtaient sans intérêt, mais pour être sûr au moins que le capital leur revienne, ils demandaient à quelqu'un de cautionner, de s'engager en cas où ce frère ne pouvait pas payer, il y en a un autre qui paye. Et alors, on prendait des risques comme cela. Mais l'Écriture, et vous allez voir, ça revient plusieurs fois, nous montre que c'est une chose qui risque de nous apporter toute espèce d'ennui. C'est pourquoi cette coutume est blâmée à plusieurs reprises dans les Proverbes. Nous trouverons encore ce passage qui revient dans les Proverbes sur le cautionnement. Et nous dirons que c'est ça que souvent nous faisons sans réflexion. Parce qu'on écoute que son bon cœur. Et puis ceux qui viennent nous demander de cautionner, ils savent qu'on a un bon cœur. Et puis ils ne nous demandent pas d'argent, donc mais vous n'avez pas à débourser quelque chose. Si vous me connaissez quand même, hein, et puis je ne suis pas encore dans mon cercueil, hein. J'ai encore la vie devant moi, puis mon affaire là pour laquelle j'ai besoin d'argent, ça va réussir, vous savez, ça va réussir si on essaye de vous convaincre, et puis si on réussit, vous aurez votre part, hein, vous aurez votre part, hein, on vous donnera un bénéfice, certainement. Alors, on n'a pas trop réfléchi, si on est bien aimé, on veut encore être aimé, ainsi que serviable. Alors, on rend service. Pourquoi? Parce qu'on a encore un peu confiance en soi, puis on a confiance en l'homme. Or, je ne mets pas ma confiance en les gens. Je ne mets pas votre confiance en moi. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Un jour ou l'autre, je te dis des fois. Et alors, parce que je vous aurais déçu et que j'étais un homme qui parlait de Dieu, qui se déçu de qui? C'est pas que terrible. Nous représentons le Seigneur. Et si moi je vous déçois, je vous risque d'être déçu de celui que je proclamais être mon Père, que je disais être mon Seigneur. Et alors on vomit. On vomit les chrétiens qui ont vomi Dieu avec. C'est-à-dire le Dieu des chrétiens, de ces chrétiens-là. Voyez-vous,
Et on hypothèque aussi l'avenir. Est-ce que l'avenir nous appartient? Non. Alors, moi, je peux peut-être faire un geste aujourd'hui. J'ai quelques argent. Mais demain, qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être pris moi-même. Et vous savez, il y a des circonstances qu'on n'a pas du tout prévues. C'est pas parce qu'on était malhonnête qu'un homme s'est nécessairement failli. Pas nécessairement. Mais parce qu'il a, il a été trop ambitieux, il n'a pas pesé assez, il n'a pas été prudent. Hein? Or, la question, c'est une question de prudence, nous l'avons dit déjà. Alors, les proverbes nous sont donnés parce que Dieu voudrait que nous ayons une vie heureuse et sans souci. Il y a déjà assez de soucis qui vont venir sans qu'on se mette encore nous-mêmes dans ce train. Parce que ce que nous disions tout à l'heure, il y a la mort imprévue peut-être de cet homme. J'ai essayé, et François et Josaphat peuvent le dire, d'enseigner même les petits-enfants. J'ai été frappé là dans le temps familial hein, quand j'ai posé cette question. Aux enfants qui voudraient peut-être un jouet, papa n'a pas beaucoup d'argent, hein, mais ils ont vu que le camarade dans la maison à côté avait tel jouet, puis ils font la scie à papa, papa, tu peux bien plus donner ce jouet, etc. Puis papa dit, mais tu sais, moi j'ai pas la situation du monsieur d'à côté, mais enfin papa, ben, tu peux bien faire ça pour nous. Et puis alors, le papa, s'il n'a pas d'argent, lui demander, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des petits gosses qui vivent à la banque. Eh oui, hein, bien sûr. Ils savent très bien ce que papa doit faire pour avoir de l'argent. Il va à la banque. Il croit que les cartes de crédit, c'est de l'argent. Hein. Alors, c'est pas ta carte, papa. Je ne sais pas ce qui va arriver. Alors, bien sûr, les enfants vivent à la banque. Et puis, si tout d'un coup, papa meurt, qu'est-ce qui arrive? Les banquiers. On racontait l'histoire d'Élisée, hein, de la veuve du fils des prophètes, qui tournait son fils des prophètes, il avait emprunté. Il était honnête. C'était un fils des prophètes. Mais voilà, sa veuve meurt, sa femme, lui meurt, et puis sa femme reste là. Avec des dettes. Et voilà. Et que le banquier vient réclamer. Comme il n'y a rien à prendre, on prendra des enfants. La loi permettait de prendre des enfants comme esclaves, et le travail payerait. Et la femme supplie. Et puis elle demande peut-être un petit délai, peut-être une journée, parce qu'elle pense qu'il y a Élisée dans la région. Alors, elle ira vite chez Élisée, mais elle en parle à ses enfants. Mais comme les enfants savent que Élisée avait maudit les enfants et que des jours s'étaient sortis, ils devaient avoir une peur terrible. Si tu vas chez Élisée, c'est pire que le banquier, qu'est-ce qui va nous arriver? C'était pas Élisée qui avait fait sortir les eaux. Enfin, on a essayé de faire comprendre certaines vérités à des enfants. Et en leur disant que cette histoire, c'était papa, ce qu'on supplie, ne fait pas de dettes. Ce qu'on nous dit au Canada, tout le monde a des dettes. On ne peut pas faire autrement. On est dans les dettes. On ne peut pas faire autrement si on dit plus que nos possibilités. Alors, on va se mettre dans des situations difficiles. Pourquoi ne pas se contenter de ce que nous avons? Et quand nous nous contentons de ce que nous avons et que nous acceptons de vivre dans la dépendance du Seigneur, vous verrez que le Seigneur vous donnera plus et mieux que tout ce que vous pouvez désirer. Mais vivez cette parole et le Seigneur vous honorera. Alors, il y a un moyen, donc, de se libérer du questionnement. Hein? Ça demande peut-être de l'humilité. C'est donc ceci, verset 3. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé sous le pouvoir de ton prochain. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Va, prosterne-toi, et fais-lui, c'est des instants qui près de lui. Oh, mais c'est une illusion. Non, mais, j'ai pas réfléchi, tu sais. Je ne peut-être pas service, mais je ne peux pas faire. J'avais dit que ce serait, mais ça vaut mieux que je ne fasse pas. Ne donne ni sommeil à tes yeux,
ni assouplissement à tes paupières. On retrouve les paupières. On les retrouvera souvent dans... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne donne ni assouplissement à tes paupières? Faut dormir, ne pas fermer les yeux, hein. Garde les yeux ouverts sur cette question. Et nous, on ferme les yeux. Ça s'arrangera. J'avais un mauvais moment. Ça s'arrangera. Pas sûr. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Dégage-toi comme la gazelle. On retrouve la gazelle. Hier, c'était la femme légitime. C'était une belle gazelle. Gazelle pleine de gras. Eh bien, ici, on retrouve la gazelle. Mais dégage-toi comme la gazelle de la main du pasteur. Comme l'oiseau de la main d'oiseau. L'oiseau, quand il a vu le filet, mais est-ce que nous voyons le filet? L'oiseau, il voit le filet, et il monte, et il passe par-dessus. Eh bien, si maintenant, tu vois qu'il y a un filet qui était devant toi, et que tu n'as pas réalisé, mais que pour toi, c'était un piège. On t'a demandé si c'est un piège, eh bien, dégage-toi de ce piège. Voilà le remède. Si ce n'est pas trop tard. Parce que nous verrons que quelquefois c'est trop tard. Alors on a dit que mieux. Et ça laisse des mains, ça laisse des traces. Et quelquefois une amertume cruelle. Bien le Seigneur voudrait nous délivrer même si on a dû faire cette expérience. Et peut-être qu'on a dû quelquefois faire une expérience pareille pour que on en a tellement souffert que nous nous disions il faut absolument avertir d'autres personnes. Parce que mes échecs, mes expériences, mes fautes doivent servir à d'autres. J'ai assez d'amour pour que je puisse désirer que d'autres ne tombent pas dans ces choses. Moi, je suis tombé. Eh bien, Seigneur, donne-moi que cette expérience serve à d'autres, que je puisse dire. Vous savez, c'est pas de la théorie ce que je vous dis. J'y ai passé. Et vous savez, quand on entend quelqu'un qui nous parle ainsi, ça nous fait du bien. Et ça nous fortifie. Si on dit que la parole de Dieu est vraie. On a des hommes, on a des femmes qui ont vécu cela et qui nous le disent. Deuxième chose, hein, on passe rapidement. Considère la fourmi paresseuse. C'est le second piège. La paresse, maintenant. On a vu donc les ressources pour le questionnement, c'est l'humiliation et le dégagement. Et puis, maintenant, alors, il y a la paresse. Voyez-vous, si le cautionnement est une imprudence, qu'est-ce que nous pouvons dire de la paresse? C'est plus qu'une imprudence, alors. C'est un vice. Il faut appeler les choses par leur nom. Le cautionnement, je dirais, c'est une imprudence. Mais le Seigneur voudrait que nous disions prudent. Mais alors, la paresse, c'est un vice. Et vous voyez, là, on a deux choses qui nous sont signalées, qui sont causes de pauvreté. Et voyez-vous, moi, je suis absolument convaincu que s'il y a même une pauvreté évangélique que nous aimons, cette pauvreté que nous avons vue en Jésus-Christ, mais qu'il n'a jamais été faire du bien, quoique pauvre, il enrichissait plusieurs. Il était riche, de son origine. Et il a vécu dans la pauvreté afin que par sa pauvreté, nous puissions enrichir l'écriture. Alors, ça, c'est la pauvreté, donc, évangélique, mais c'est souvent les plus pauvres qui font le plus de bien, c'est vrai, ça. Pas toujours les riches qui font du bien. Mais les pauvres, avec la pénurie dans laquelle ils se trouvent, ils arrivent encore à faire du bien. Parce qu'ils ne sont pas attachés à l'argent. Et ils sont tout prêts à donner de leur pénurie. Comme Jésus nous l'a enseigné avec la femme qui a mis la pipe dans son offrande du temps. Elle a donné plus que les riches qui mettaient avec ostentation des gros billets ou des gros pièces. Alors, il y a des causes de pauvreté qui doivent disparaître. Du reste, la pauvreté n'était pas dans le sang de Dieu. Dans le pays d'Israël, la pauvreté ne pouvait être qu'accidentelle. Et alors,
il y avait des règles pour les Israélites, pour quelqu'un devenait pauvre subitement parce qu'il y avait eu la maladie, parce qu'il y avait eu un deuil, alors la charité de mes frères était mise, on faisait appel à la charité des frères. Mais la pauvreté n'était pas un état incurable. Tandis que aujourd'hui, il y a une pauvreté qui a l'air d'être incurable. Et cette pauvreté n'est pas évangélique du tout. Moi, j'ai vu souvent, là, nous avons fondé il y a 35 ans, l'œuvre du refuge à Nice. Et alors, évidemment, on recevait, on reçoit encore, c'est la même chose, des gens qui venaient pour se réfugier. Et qui disaient qu'ils étaient pauvres, qu'ils n'avaient pas mangé. Bon, ils auraient voulu qu'on leur donne de l'argent, alors. Non, on leur donnera à manger. Alors, ce n'était pas tellement qu'on leur donne à manger. Et puis, on leur disait, bien, voyez-vous, peut-être que vous pourrez travailler un peu dans le jardin. Oh, ça leur plaisait encore moins. Ils faisaient de la grimace, même en mangeant leur pied. Et quand, dès qu'ils entendaient qu'on parlait de travail. Alors, évidemment, on essayait de leur parler, en disant, mais c'est quand même bizarre que vous n'ayez rien à manger. Alors, vous êtes plus malheureux que les oiseaux du ciel. Pour quelle raison? Vous ne connaissez pas votre personnel? Alors, ça nous permet de parler. Parce qu'on donne peu de la soupe, c'est un peu ce qu'on a reproché à l'armée du salut. Hein? Et on avait fait ce slogan, soupe, savon, salut. Hein? Salut, c'est lui. On parle. Hein? Ils ont leur soupe, on leur a donné du savon pour se nettoyer, parce que vous savez, quand les pauvres arrivent, soi-disant, hein, il y en a qui renivent drôlement, hein, ça sent. Mon père, je me souviens, on en avait reçu un, et puis il était là au refuge, il me dit, il sent le lion. Il ne devait pas se laver depuis longtemps, hein, mais. Et pour arriver à le faire se laver, c'était toute une histoire. Il y a des causes de pauvreté qui doivent disparaître. Quand on a le Seigneur dans son cœur, l'ordre vient aussi du maître, et puis on a le goût de travailler, et puis, aussi, on voit un changement. Eh bien, que le Seigneur nous parle. Le paresseux, il l'est parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas de travail. Alors, un homme comme cela, est-ce que de Dieu l'envoie vers qui pour être enseigné? Vers les animaux. Va vers la fourmi paresseuse. Et c'est frappant, hein. Il est parlé de beaucoup d'animaux dans le livre des Proverbes. Il y a des animaux sauvages, il y en a au moins 8. Il y a des animaux domestiques, il y a des oiseaux, il est parlé de reptiles, et il est parlé aussi d'insectes. Donc la fourmi est parmi les insectes. Et je pensais à ce temps que nous avons eu ici à Mahanaïm, où on avait pris comme thème justement ce verset de Job, et c'est vraiment passionnant, interroge les bêtes et elles s'assument. Est-ce les bêtes peuvent vous dire quelque chose? Interroge les bêtes, elles s'assument. Elle va vers la fourmi, parce que ça c'est Job 12, verset 7. 15 fois il est question du paresseux dans le livre des Proverbes. Donc vous voyez que c'est un vice dont on doit délivrer. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, qui pourtant, même qu'elle n'est pas surveillée, qu'elle n'a pas de reine comme les abeilles, hein. Les abeilles ont une reine. Mais les fourmis n'ont pas de reine. Et elles n'ont pas d'inspecteur. Et pourtant, qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent. Elles sont à leur boulot. Elles préparent en été sa nourriture. Elles amassent pendant la moisson de quoi manger. Et vous savez que Ésope, qui ensuite la fontaine, ont fait des fables
qui nous donne un enseignement, donc c'est tiré d'ici. La fourmi, la cigale est la fourmi. Ah, vous aimez chanter, vous aimez chanter. Dansez maintenant. Mais il y a aussi une possibilité de s'en sortir. Il y a le juste vacant, hein. Un des trucs que nous avons étudié dans le camp familial. Juste vacant, bon, ça peut finir cette parole. Pas parce que j'ai au tempérament pas resté. Pas m'en sortir. Quoi? Ça ne suffit pas d'avoir un poil dans la main, tu veux une barbe, mettons, dans ta main? On dit que les paresseux, ils ont un poil dans la main. Il y en a qui ont une vraie barbe dans leur main. Ils n'ont pas seulement le poil. Ils veulent pas, oh. Pourquoi est-ce que je vais travailler? J'ai le bien-être social. Je suis sur le bien-être social. Puis on me donne autant, au fond, je n'aime plus. C'est quelque chose de lamentable. Vous n'avez donc pas d'honneur à cœur? Ben, je suis heureux qu'il y ait le bien-être social. Mais pour ceux, qui en ont réellement besoin, mais quand on a des muscles, et quand on a, encore, la possibilité, d'agir, de travailler avec nos mains, quand on n'a pas les mains, triplées, hein, comment on dit? Triplées. Déformées. Eh bien, on doit s'en servir. Paresseux. Jusque la tente sera-t-il touché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Parce qu'avec la paresse, on aime dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et qu'est-ce qui arrivera? Mais ta pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Hein. C'est-à-dire que devant un homme en armes, est-ce que tu peux y échapper? Si tu ne veux pas travailler, eh bien, tu n'échapperas pas à ces conséquences. L'apôtre Paul, dans ses visites dans les églises, avait insisté là-dessus. Il avait voulu se donner en exemple. Hein. Il travaillait même de ses mains pour n'être à la charge de personne. Il a donné ça comme exemple. Il n'a pas écrit des lettres pour demander de l'argent. Hein. Vous voyez dans quelle situation je me trouve. Et nous avons besoin de fonds pour ceci, pour cela. Non. L'apôtre Paul n'avait pas ces méthodes modernes. Des chrétiens, ils ont dit évangéliques. Non. Et s'il le fallait, il travaillait avec ses mains. Et puis, alors, si Dieu le voulait, il recevait les dons dont il avait besoin et il en faisait bénéficier d'autres. Il pouvait faire bénéficier d'autres. Et, il disait, celui qui ne veut pas travailler, hein, ben c'est un homme qui vit dans le désordre. Et il est l'œil sur lui. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, c'est un homme qui vit dans le désordre et il était exclu de la table du Seigneur. Il y avait une discipline. Donc, il y a des causes de pauvreté qui doivent disparaître. Il y a encore un remède. Il faut se ressaisir. Troisième point, c'est quoi, versets 12 à 15? C'est la perversité. Qu'est-ce que c'est que la perversité? Vous avez compris le mot? L'homme pervers. L'homme inique. C'est donc le méchant. La perversité, c'est la méchanceté, c'est la dépravation. C'est aussi, on peut traduire aussi la fourberie, c'est la ruse basse et odieuse qui est jointe au mensonge. Le pervers, c'est l'homme qui est méchant et qui est enclin au mal. La perversion, littéralement, c'est le changement du bien en mal. Et Nietzsche, le génial démon, il a écrit une chose qui m'a souvent effrayé. Donc, il disait, nous avons tué Dieu, etc. Et il disait, dans 50 ans, se lèvera un homme qui mettra en pratique les doctrines.
Et qui était cet homme? Hitler. C'est vrai, c'est un homme plus tard, il y a eu Hitler. Et qu'est-ce qu'il écrit? Dans le parler Zarathustra, il écrit, il dit, je suis en train de transvaluer les valeurs. Alors, ces hommes de cabinet, le doux Nietzsche, qui n'aurait pas pu élire. Il est en train de dire des choses. C'était fataliste. Il transvaluait les valeurs. Il faut appeler le bien mal. Il faut appeler la douceur péché. Mais la dureté, la cruauté, c'est ça. Vous avez toute une génération, les nazis, qui ont mangé cela, qui ont vu cela. Et ils ont fait des atrocités. Ils ont fait des atrocités. Mais qui est responsable de ça? Ceux qui sont tranquillement dans leur cabinet et qui ne tueraient pas lui. Ils sont diaboliques. Puis après, vous trouvez de ces gens comme Hitler qui exécutent ces choses, qui prennent des livres comme ceux de Nietzsche comme étant leur Bible. Ben, prenez ce livre pour votre Bible et vous aurez autre chose. Et il restera autre chose. Alors, cet être malfaisant que vous avez là, moi je trouve que c'est vraiment merveilleux, ce proverbe. Prenez, il y a 7 coups de crayon, il est décrit. Oui. L'homme pervers. En 7 coups de crayon, il le décrit. L'homme pervers, l'homme inique, qu'est-ce qu'il fait? Il marche la fausseté dans la bouche. Il ment. Elle mensonge vient de qui? Du père, du mensonge de Satan. Donc, c'est satanique. Il cligne des yeux. Alors, vous retrouvez tous ces organes. Qu'est-ce que c'est cligner des yeux? Vous faites de l'œil à quelqu'un? Alors, faites de l'œil. C'est un langage, hein. J'ai un petit code avec elle. Alors, je sais bien. Elle comprend très bien. Je vous donne un rendez-vous. Puis, on est à table. Je parle avec mon pied. Je fais sur ton pied. Non, doucement, doucement. Oh, ça me fait me finir. D'un de mes amis, il est devenu évangéliste, mais pas auprès du Seigneur, mais il me racontait un jour que, pendant qu'il faisait son catéchisme en Suisse, il y avait un pasteur que j'avais connu aussi, et il réunissait à la fin du catéchisme tous ces catéchumènes, hein, ceux qu'il avait enseignés pendant ce qu'on appelle là-bas les 6 semaines. Et puis il y avait une jolie fille qui était juste en face du pasteur, lui il était là, et puis la jeune jolie fille était là, et puis lui, le futur évangéliste, il était là, il y avait tous les autres. Et puis il la regardait comme ça, puis il la trouvait jolie. Et il a voulu lui parler du pied. Il pressait, il pressait. Elle répondait pas, mais il pressait sur le pied du pasteur. Il lui a dit, oui, je te comprends. Il s'était trompé du pied. Elle aimerait de vrai cette histoire. J'ai fait des camps avec cet homme. Alors, vous voyez ce que c'est? Cligner les yeux, parler du pied. Vous avez des cordes vocales au pied? C'est des signes de ses doigts. Ils prennent la main. Vous connaissez ça? On parle avec ses doigts aussi. C'est des signes de ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en soi. Il excite les querelles. Voilà, les sept points. Alors, sa ruine arrive-t-elle subitement? Il sera brisé et il n'y a pas de remède. C'est quand même terrible, hein. Ça, on peut dire que c'est le péché qui conduit à la mort. Il n'y a pas de remède pour ne pas même prier pour ça. Parce que, vous voyez, il y a, pour le cautionnement, il y a un remède, hein. On a vu quoi, hein? C'est dégagé. S'humilier, c'est dégagé. Même si c'est humilié. Pour la paresse, il y a un remède jusque à temps. Comprends, tu sais, et éduqueur à ton travail. Celui qui ne veut pas travailler, il ne doit pas manger. Et puis, maintenant, alors là, pour la perversité, quand vous transvaluez les valeurs, quand vous appelez le bien mal et le mal, bien, il n'y a plus de remède. Là, il n'y a pas de remède. Pour un type comme Hitler, il n'y avait pas de remède. C'est quelque chose de tragique. C'est quelque chose de tragique. Mais vous voyez, c'est pas Dieu qui perd les hommes, c'est l'homme qui se perd. C'est l'homme qui se perd. Vous aimez les proverbes? Alors, maintenant, on peut rattacher ce court morceau où il est dit qu'il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7, on retrouvera ces expressions, qu'il a en horreur, qu'il a en abomination. Alors, notez-les. Les yeux hautains.
J'ai pas besoin de vous expliquer ça. C'est que les yeux hautains. Ils méprisent, ils regardent de haut. Comme si on était tombé de la puissance du terre. Oh. Les yeux hautains. La langue menteuse.
Ah non. Un chrétien, il en a fini avec le mensonge. C'est polinaire, ça. Vous avez décousu le mensonge. C'est fini. Le mensonge avec toutes ses filles. Le mensonge au moins ses filles. Ça vous désolé. Il y a l'exagération. Il y a tombé ses filles, hein. Qui rentre dans le mensonge, la fille. Tout ça, c'est du mensonge. C'est des choses qu'il ne faut plus fermer. Les yeux sains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang. Vous avez des exemples?
Oui, aussi.
Mais, disons, dans l'écriture, qu'est-ce qui a répandu du sang? David, le premier, c'est Caïn, hein. Et Caïn était dit méchant, il a répandu du sang. Mais David, lui aussi, il a répandu du sang. Et est-ce que c'était Dieu qui le voulait? Les atrocités de David, en fait, c'était pas Dieu qui le voulait. Et il le lui a montré d'une façon claire, en lui disant, quand il avait dit bâtir un temple, c'est pas toi qui bâtiras mon temple, parce que tu es un homme de sang. Tu as versé beaucoup de sang. Et David, on n'a pas appelé ça le temple de David, mais le temple de Salomon. Les mains qui répandent le sang. Le cœur qui médite des projets uniques. Oh, on est très bien là, j'ai un beau visage. Je ferme les yeux. Je médite des projets uniques. Et vous savez, il est dit que celui qui ferme les yeux pour penser à des choses mauvaises, il a déjà commis le péché dans son cœur. C'est un verset qu'on va retrouver plus loin. Le cœur qui médite des projets uniques. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. On a cette citation dans les Romains, le chapitre 3, hein, qui décrivent l'homme pécheur. Il a les pieds qui courent vers le mal. Tandis que l'homme régénéré, ses pieds sont beaux. Hein. Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, vos pieds, est-ce que c'est des pieds qui courent vers le mal ou est-ce que c'est des pieds qui vont parti apporter la bonne nouvelle de la paix. Le faux témoin qui dit des mensonges, et vous savez, les faux témoignages, c'est quelque chose d'épouvantable. Et on en a. La semaine passée encore, j'ai reçu un téléphone où on m'a dit ces choses. Et c'était des purs faux témoignages. On me demandait si vraiment j'avais fait ceci, si j'avais fait ceci. Et qui avait dit ça? C'était des chasseurs. Les faux témoins qui dit mensonges, puis celui qui écrit les cœurs. Vous devez être des hommes de paix. Alors, ça vous fait penser, quelles sont ces œuvres? Ces 7 choses que Dieu a en abomination, ce sont les œuvres de la chair que vous trouvez dans les Galates. Les œuvres de la chair. Vous avez ces œuvres de la chair dans les proverbes. Ne me dites pas que c'est pas intéressant de l'Ancien Testament.
Vous êtes en plein dans l'évangile, et dans l'évangile annoncé par les apôtres. Ensuite, alors, depuis le verset 9, on revient donc à ce chapitre 5, c'est la quatrième de ces unités. C'est la corruption des mœurs, hein, la quatrième. Mon fils, garde le précepte de ton père, il revient là-dessus, hein. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Garde le précepte de ton père, parce que le père représente l'autorité dans la famille. La mère représente la douceur, la tendresse, la persuasion. Un théologien français qui est auprès du Seigneur, lui aussi, mais certains ont lu son livre Les Adieux d'Adolphe Monod. Eh bien, il a écrit aussi quelque chose de très beau sur la femme. La femme, on peut y passer à ceux qui sont intéressés. Je pense qu'il est là aussi. Ce qu'est être femme. Et il dit, à l'homme la force et le commandement, à la femme la douceur et la persuasion. Alors ça va ensemble. Et le tempère, peut-être, les commandements du mari, et elle agit avec douceur et persuasion. Eh bien, garde tout ça. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Elle a été peut-être plus douce pour nous dire certaines choses, notre mère, que notre père. On avait besoin de cette fermeté et puis en même temps de cette douceur. L'île est constamment sur ton cœur et attachée à ton cou, sur ton cœur. Hein. Et qui inscrit ces choses? Qui est-ce qui lit ces commandements dans notre cœur? C'est le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui agit, mais quelle est la place du Saint-Esprit dans vos vies? Est-ce que vous le laissez agir? Ou bien est-ce que vous le contristez? Est-ce que vous l'attristez de telle sorte qu'il n'a rien à dire en vous? Vous prenez des décisions pour le Saint-Esprit? Non. Je vais laisser le Saint-Esprit. Alors, je reste dans cette dépendance du Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne m'engage pas pour l'avenir. C'est pourquoi je ne dis pas durant le temps de l'année prochaine. L'année prochaine, il n'y aura plus de façon. Nous n'engageons pas l'avenir. Nous allons un jour à la fois. Comme il le chante là tout à fait. Un jour à la fois. Oh mon Dieu. Et c'est ce qui dit. Attaché à ton cou, alors ça c'est quelque chose d'extérieur, hein, on voit. Ce qui est dans ton cœur, c'est vrai. Attaché à ton cou. Et le cou, ça fait penser au joug, hein, on a lu, prenez mon tout sur vous. Et le joug, c'est l'obéissance. On est sous le joug. Vous savez ce que c'est qu'un joug qu'on met sur deux bœufs et il tire la farine par les cornes comme ça. Mais ils doivent marcher au même pas. Et le joug du Seigneur, c'est celui que lui-même portait, c'était son obéissance parfaite. Alors il y a le Seigneur, je suis à ses côtés, et nous marchons ensemble. Mais qui est-ce qui porte le joug plus que je ne le porte? C'est toujours le Seigneur. Mais on rêve, n'est-ce pas, avec le Seigneur. C'est tellement beau. Et si nous suivrons ces enseignements, qu'est-ce qui nous arrivera? Verset 22. Ils se dirigeront dans ta marche, parce qu'ils vont marcher, bien sûr, ils se dirigeront dans ta marche. Ils se garderont sur ta couche, ça veut dire la nuit. Hein. Ils te parleront à ton réveil. Ça, c'est la bénédiction de Marie. Le Seigneur me parle à mon réveil. C'est lui qui est notre réveil, c'est lui qui nous réveille et qui nous donne la première parole. Pas besoin de lire immédiatement ma Bible, mais comme je lis la Bible autrement, il me rappelle une parole qui a été commencée la journée avec cette parole où on la retrouve dans l'Écriture, parce qu'il nous l'a dit à notre réveil. Il s'entretiendra avec lui. Ils parleront, et ils te parleront à ton réveil. Une autre traduction dit, il s'entretiendra avec toi. Et j'aime aussi beaucoup Ésaïe 50, que nous pouvons réaliser au sujet du vrai défi. Il est dit, le Seigneur, verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par une parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Être réveillé par le Seigneur et être instruit par lui dès le matin. Alors, ils te préserveront. Verset 23 encore. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Ça vous fait penser à quel verset du 119? Le verset 105. Hein. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Si j'ai été échaudé parce que un jour j'ai manqué de prudence, est-ce que je referai la même chose? Non. Je suis ainsi, même par un manquement que j'ai pu avoir, et je ne recommencerai pas, je ne cautionnerai pas une nouvelle fois. Car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, les avertissements de la correction sont le chemin de... Alors laissez-vous corriger. Nous avons dit que c'était une des règles que nous avons soulignées. Nous prenons une parole pour nous laisser corriger. Et je bénis le Seigneur pour ses corrections. Mon fils, ne t'aigris pas quand tu es reçu par le Seigneur. Celui que le Seigneur aime, il le discipline. Ils te préserveront, alors de quoi? De la femme corrompue, de la langue douffreuse, de l'étrangère. Vous retrouvez ces termes du chapitre 5, hein, la femme étrangère, la femme corrompue. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Parce que vous savez, de toute façon, la beauté, c'est bien éphémère. Hein. Et ne te laisse pas séduire par tes paupières, même si ça cligne beaucoup. Car, pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Évidemment, une prostituée, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui fait quoi? Elle se livre à la débauche contre quoi? Contre de l'argent. Voilà ce qui caractérise la prostituée. Le plus vieux métier du monde. On vend son corps. On a sa carte de travail. On veut que la sécurité sociale, comme on disait en France, couvre les riches. J'ai connu des femmes, oui, des prostituées à Marseille, et je connais l'ami de l'assistance sociale qui s'occupait des prostituées. Elle me disait souvent, vous savez, de façon, le matin, elle vient me dire, voilà, je commence mon travail, j'ai été pris les 5-6 sacs, la patronne des prostituées, pour que j'ai une bonne journée. C'est ça. Mais bien sûr, ça n'empêche pas d'être une femme de prière. Et puis pour que je n'attrape pas de maladie. Mais c'est dans les mœurs. Hein. Et on en arrive à ça. Alors, quand je vois une prostituée, je la maîtrise ça, mais je me dis, elle est destituée, elle est destituée, elle est encore, oui, après je me dis, qu'est-ce qui lui a fait arriver pour en avoir? Une femme ça. Oui, pour une prostituée, dans oui, on paye. Ça ne coûte pas. Encore trop cher. Mais la femme mariée, parce que quelqu'un m'a demandé pourquoi si on était moins bien pour la femme mariée. Puisqu'il continue. Parce que pour la prostituée, c'est à peu près ce que tu payes. Hein. Mais avec une femme mariée, je ne sais pas qu'il y va de sa vie, parce que son cher mari, hein, il peut tout à coup se présenter. Et puis, s'il est jaloux, ben, il n'accepte pas une chose comme ça. C'est une grande escroquerie. Alors, eh bien, si on a une arme, c'est vite descendu. La femme mariée tend un piège à la vie. La prostituée peut tendre un piège à votre santé. Mais la femme mariée, même si elle est très hygiénique, elle tente un piège à la vie précieuse.
parce que notre vie, elle était précieuse pour le Seigneur. C'est pourquoi la femme mariée est plus dangereuse. Et la parole sait très bien ce qu'elle est. La femme mariée quand elle piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein? Vous savez que quand on est jeune et qu'on a appris ça par cœur, c'est les fesses, ça vous aide drôlement. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Tous les saints dont vous pouvez lire l'histoire dans des livres ont eu des tentations terribles. Ils ont été souvent des hommes qui brûlaient. Mais alors quand ils brûlaient, est-ce qu'ils mettaient encore du feu dans leur sein? Non. On ne peut pas jouer avec le feu. Et voyez-vous, quand aujourd'hui je vois dans certains milieux comment on veut prier ensemble, en se mettant ensemble, en se frottant les uns les autres, et de continuer. Moi, je ne vois pas beaucoup de miracles après tout cela. Alors après, quand on apprend qu'il y en a qui sont tombés, qui sont jeunes, qui se convertis, on a joué avec le feu. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds brûlent? Oh, vous direz, oh, moi, je peux marcher sur des charbons. Je ne brûle pas les pieds. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. La femme de son prochain, c'est donc la femme mariée. Quiconque la touche ne restera pas impur. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Et c'est vrai ça, hein? Un voleur, même s'il dérobe parce qu'il avait faim, qu'on tient pour innocent, même s'il avait une excuse, si je veux dire ainsi, pour voler, hein, eh bien, on le condamnera parce qu'il a pris un pain. Lisez Victor Hugo. On condamne un voleur. On ne tient pas pour innocent quelqu'un qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Alors, si on le trouve, donc, il fera restitution au sceptique, donc cette fois, c'était la loi en Israël, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison, on lui prendra tout, on lui laissera rien passer. Mais celui qui commet un adultère avec une femme, bien, il est dépourvu du temps. Il ne prend pas compte. Celui qui veut se perdre, alors donc, voulez-vous être sauvé ou voulez-vous vous perdre? Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais celui qui veut se perdre, il se perd. Et c'est parce qu'il l'a voulu. Ne dites pas, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas empêché? Mais Dieu ne va pas vous empêcher. Il ne va pas vous empêcher si vous violez ses commandements et ses lois, si vous êtes au contraire de ce qu'il vous a enseigné. Celui qui veut se perdre, il agit ainsi, il n'aura que plaie et ignominie. C'est vrai au Canada, ça? Allez demander au ministre qui est allé représenter le Canada il n'y a pas si longtemps en Allemagne et qui s'est permis de faire une chose qu'il n'aurait pas osé faire à Ottawa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une boîte de nuit. On l'a su. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Démissionner. Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est de l'actualité. Et son opprobre demeure. Et c'était un homme marié. Alors, si. Oh, mais j'allais pour évangéliser. J'allais pour montrer la chrétienté canadienne à ces femmes. Il n'aura que plaie, ignominie, et son opprobre ne s'efface pas. Donc, c'est lui, ça. Son opprobre ne s'efface pas. Car la jalousie met un homme en fureur. C'est vrai ou c'est faux? La jalousie. Lisez le cantique des cantiques. Hein. La jalousie, elle est cruelle comme le séjour des morts. On tue par jalousie.
Il est sanctifié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Il y en a qui ont égard à une rançon, hein. Mais pour faire chanter un peu davantage après, on doit payer le silence. On achète le silence. Mais des fois, ça marche même pas. Il est impossible, quand même, qu'il multiplierait ses gens. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'on a répondu aux questions? Vous avez vu quelque chose d'autre? Quel est le péché pour lequel il ne semble pas y avoir de guérison? Vous l'avez trouvé. La perversité. Par quelle parole de l'Épître aux Galates pourriez-vous résumer les sept abominations? Galates 5, 19 à 21. D'accord. Si ces trois femmes avec lesquelles les croyants ne doivent pas avoir de rapport, la femme, mariée, l'étrangère, la prostituée ou l'adultère, hein. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? Parce qu'il faut bien se tenir du sens des mots. L'adultère, c'est la femme ou l'homme qui viole la loi conjugale. Voilà l'adultère. C'est celui qui viole la loi conjugale. C'est celui qui viole la loi conjugale. On est marié, mais on n'est pas fidèle à son mari. Tandis que la prostitution, après, elle n'est pas mariée, mais c'est vraiment. Oui. Ah, mais si elle n'était pas sauvée, évidemment qu'il y a un changement, mais alors on a rompu entièrement avec ça. Oh ben bien sûr, mais même les gens du monde, il y en a qui ne font pas ça. Qui ont une honnêteté et une probité. Mais le drame, c'est qu'il y en a qui pensent, parce qu'ils sont au Seigneur, ils arrangeront quand même toujours les choses, le Seigneur est mort pour leur péché, alors on pêche encore, et on recommence, et puis on reconfesse, et puis on recommence, et puis on n'en sort pas. Et alors on n'est pas du tout un témoignage. Votre salut, c'est pas le salut seulement de votre âme, c'est le salut de votre corps. Et être sauvé, c'est appartenir au Seigneur, le Seigneur qui opérait avec votre corps dans ce monde. Mais il parle à tous les cœurs, il parle à toutes les consciences. Et s'il se révèle, il y a des choses qu'on abandonne. Bien sûr. Oui. Oui, mais alors ça, c'est... Non, c'est pas... C'est pas pareil, n'est-ce pas? Comme une prostituée?
Non.
Oui. Oui, alors ça, tu as 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, où il est dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Oui, ça va très bien. Mais la femme étrangère peut être aussi dans et une femme mariée qui est étrangère. Donc il y a les deux choses. Mais oui.
Avant de mourir, il a dit à son frère, lui il était diacre comme un femme. Et avant de mourir, il a dit à son frère, il a dit grand garçon de la femme.
Il en a tellement pas. Parce que le Seigneur aurait pris soin de sa femme. Mais le pasteur est marié? Ah ben ça c'est un piège. Enfin, il y a tout un enseignement pour les veuves dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5 de la première épître à Timothée. Et c'est vrai que c'est dangereux d'être veuve. Pour ça, c'est très drôle. Le premier écrit que j'ai fait, c'était pour les veuves. J'avais 18 ans quand j'ai écrit ça pour les veuves. Parce que j'étais malade, puis une veuve était venue me visiter à l'hôpital, puis elle m'avait demandé, parce que c'était la Bible, si tu trouves des versets de consolation pour les veuves. Puis j'avais fait tout un petit travail, puis elle l'a photocopié, mais c'était dans ce temps-là. Puis après, on m'a demandé de l'écrire. Mais j'étais frappé par ce chapitre 5 de la première épître à Timothée, justement, honore les veuves qui sont véritablement veuves, verset 3. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer leur piété envers leur propre famille et à rendre à ceux dont ils descendent ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable au Seigneur. Celle qui est véritablement veuve, n'est pas parce que non, elle n'est pas divorcée. Pas parce qu'elle est veuve joyeuse. Mais qui est réellement veuve, hein, et qui est demeurée dans l'isolement, parce qu'il y a des veuves qui ne sont pas véritablement veuves. Elles sont veuves, elles gardent. Il y en a une qui m'a téléphoné il n'y a pas si longtemps encore. Elle était veuve. Puis, elle avait un ami. Mais, elle voulait rester veuve. Parce que si elle savait très bien qu'elle aurait dû épouser l'homme. Mais si elle épousait cet homme, elle perdait quoi? Sa pension de veuve. Alors elle disait, on t'aime devant le Seigneur, qu'elle disait. Mais si je m'en vais devant l'officier d'état civil, si je régularise la situation, je perds ma pension de veuve. Oui, exactement. Celle qui veut vivre dans non, mais elle peut changer d'idée, tu comprends. Il y a des veuves qui sont véritablement veuves, et puis après, qui ont rencontré quelqu'un, elles se sont mariées. Non, mais elles sont plus veuves si elles sont mariées. Elles ne sont plus veuves. Mais c'est pour ça que dans les assemblées locales, dans l'église locale, qui fait présentation, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, elle met son espérance, non pas en son pasteur, elle met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. Mais celle qui vit dans les plaisirs, voilà la veuve qui n'est pas véritablement veuve, hein. Mais celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoi, vivante, hein. Déclare leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de toute sa famille, il a ruiné la foi, il est pire qu'un incrédule. Qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle, non pas moins de 60 ans, c'était une mesure. Et qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toutes espèces de bonnes œuvres. Donc, elle n'a plus à s'occuper de son mari, mais elle peut avoir bien des occupations saines et saintes. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les attache, les détache de tout, elles veulent se marier, elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec ça, elles sont voisines. Voilà pourquoi, hein, je fais attention à l'appareil. Elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont voisines, mais encore causées, jasées et intrigantes, disant ce qui ne s'est pas dit. Je veux donc que les jeunes se marient. Donc, on peut être jeune et se marier. Mais c'est l'engagement au Seigneur. C'est l'engagement au Seigneur. Oui. Oui. Alors c'est pour ça que je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de les dire. Parce que c'est juste, hein. Mais voyez ici, on retrouve au fond le ton des proverbes. Alors évidemment dans les proverbes là, il sera parlé aussi de la veuve, mais dans le passage que j'ai lu, il n'était pas question de la veuve. Là, tu demanderais au Seigneur de te faire comprendre. Moi, je ne vais pas donner toutes les réponses. Cherchez et vous trouverez. Refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les dépasse, je crie, elles veulent se marier, bon, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur famille.